Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews culture et histoire de Timeline, en partenariat aujourd'hui avec le Salon Histoire de Lire à Versailles. J'ai la chance de recevoir Muriel Gilbert pour son livre « Correctrice incorrigible ». Vous êtes correctrice, vous êtes chroniqueuse, vous êtes auteur, enfin bref, beaucoup de choses. Bonjour déjà.
Merci de m'accueillir.
Merci d'être là. Qu'est-ce qui vous a amené déjà à ce métier ?
Alors je crois que ce qui m'a amené à ce métier, c'est le hasard. Les hasards de la vie. C'était pas du tout un métier que j'envisageais de faire quand j'étais enfant. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait beaucoup de petits-enfants qui connaissent l'existence de ce métier.
Encore moins maintenant, je trouve.
Encore moins maintenant, sans doute. Mais je pense que si j'avais connu l'existence du métier de correctrice, oui, j'aurais pu... Je pense que je me serais dirigée vers ce métier dès le départ. Mais il se trouve que je ne connaissais pas. Si on n'a pas de famille dans la presse ou dans l'édition, on n'a pas tellement de raisons de le connaître. Et donc, j'ai d'abord été... J'ai commencé par étudier la traduction littéraire, anglais-français. J'aimais beaucoup les langues, j'aimais beaucoup les mots. Donc voilà, ça m'approchait déjà de cela. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans la presse, dans divers emplois. Et puis, au gré des fermetures de journaux, parce que... Il y a pas mal de journaux qui ferment, au cours de ma carrière, il y en a quelques-uns qui ont fermé. Et donc, j'ai eu droit à des formations. Et à un moment, j'étais dans un magazine qui s'appelait Top Family Magazine, où j'avais une chronique, d'ailleurs, où je parlais de la vie de mon fils. Chronique humoristique sur la vie de maman et de fiston. Et j'étais aussi secrétaire de rédaction dans ce journal. Et puis, il faisait partie du groupe Le Monde. Et ce journal a fermé. Et on m'a proposé une formation de correctrice, parce qu'il y avait des correcteurs du Monde, tout simplement, qui prenaient leur retraite. Et comme j'étais secrétaire de rédaction, c'est un métier relativement connexe. En tant que secrétaire de rédaction, vous corrigez aussi le journal pour les journaux qui n'ont pas de correcteur. Et voilà, comme ça, j'ai découvert la presse quotidienne et le métier de correctrice. Et j'avais déjà plus de 40 ans, en fait.
Et ce n'est pas Le Monde qui a fermé, on est d'accord. Hein, c'est Top.
Ce n'est pas Le Monde, c'est Top Family Magazine qui faisait partie du groupe Le Monde.
Bon, une langue, ça vit énormément. La nôtre vit beaucoup. Est-ce que vous trouvez qu'elle a beaucoup changé? Que c'est normal qu'elle ait changé autant?
Alors, les langues ont toujours changé, bien entendu. Une langue, c'est la différence entre une langue morte et une langue vivante. D'ailleurs, une langue morte, c'est parce qu'elle n'est plus parlée, qu'elle est devenue morte, elle ne bouge plus. Mais déjà, elle a bougé quand elle était vivante. Il y a plusieurs époques du latin, par exemple. Donc, la langue change, elle change toujours, elle change aujourd'hui. Est-ce qu'elle a beaucoup changé depuis que je suis née? Oui, évidemment. Mais en même temps, c'est ce qui prouve qu'elle est vivante. Alors, on aime plus ou moins certains changements.
Ça, on va y venir.
À nous d'utiliser les changements qu'on aime.
Pourquoi ce livre ?
Pourquoi ce livre ?
Correctrice incorrigible.
Correctrice incorrigible, d'abord. Pourquoi ce titre, on pourrait dire ?
D'accord.
Parce que pourquoi ce livre ? C'est un recueil des chroniques que je fais chaque année, donc toute l'année, sur RTL, le samedi matin et le dimanche matin à 7h50. Je cherche des auditeurs encore.
Il y en a qui écoutent.
Au cas où.
Voilà. Oui, il y a encore des gens à conquérir aussi.
Et voilà, ça, bien sûr. Donc ça, c'est le dernier recueil de ces chroniques. On en fait un chaque année. Et puis, pourquoi il s'appelle Correctrice incorrigible ? Parce que je suis incapable de me retenir de corriger. C'est-à-dire que quand je visite une exposition et qu'il y a des fautes dans les cartels, j'ai vraiment du mal à ne pas sortir mon stylo rouge et m'y arriver de le faire. Oui.
N'allez pas sur TikTok, parce que là vous allez mourir.
C'est
directement,
vrai.
Effectivement. Le pire dans les fautes, moi, je trouve que ce sont souvent celles des journalistes. Les fameuses fautes, alors j'ai noté, parce que l'ensemble des spectateurs ont applaudi, par exemple, ça, c'est la plus pénible pour moi.
Alors, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que les accords des collectifs, on appelle ça l'ensemble des ou la marée des spectateurs, etc. C'est des collectifs, ça. Et en fait, on peut accorder selon la grammaire, alors c'est ce que vous avez envie de faire, ou selon le sens, on appelle ça un accord de syllabes. On a le droit d'accorder selon le sens. Et donc, par exemple, j'ai lu, comment s'appelle-t-il ce bouquin ? Enfin, c'est un magnifique roman dont j'ai oublié le titre parce que je n'ai pas suffisamment préparé cette question. On parlait d'une marée de jonquilles qui a envahi les pelouses. Et c'était une marée de jonquilles ont envahi la pelouse. Et moi, j'ai dit, et pourtant, c'est un grand auteur, le nom ne me vient pas tout de suite. Et je me suis dit, j'aurais mis une marée de jonquilles a envahi. Oui. Parce que moi, je vois une marée, là.
Oui,
j'aurais fait un accord.
J'aurais fait comme vous.
Vous voyez ? Et donc là, vous auriez fait un accord sur le sens, en fait. On aurait pu dire, c'est pas faux de dire une marée de jonquilles ont envahi les pelouses, parce que du coup, on accorde sur jonquilles, sur la grammaire. pourquoi pas, en fait.
Voilà. D'accord. Moi, j'avais aussi la Seconde République, quand on sait qu'il y en a eu plusieurs.
Alors voilà, effectivement. Là, c'est pas hein, une la faute, seconde. Ah voilà, quand il y a une troisième, il n'y a pas de second.
On
peut jamais être second sur le Tour de France. Poulidor, on l'appelait l'éternel second. C'était quand même une erreur que tout le monde a faite.
C'est fait, voilà. Effectivement. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que notre langue se perd avec tous les anglicismes quasi quotidiens et de plus en plus, enfin, on parle d'outfit. Moi, ma fille, 13 ans et demi, qui me dit « qu'est-ce que tu penses de mon outfit ?» Je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, c'est mes vêtements, la façon dont je m'habille. Et de plus en plus, c'est ça, on parle du Black Friday.
Oui, c'est vrai. Alors,
on n'en peut plus, en fait.
C'est vrai qu'il y a une invasion un peu... agaçante pour certains, d'anglicisme. En fait, c'est surtout des américanismes, hein, aujourd'hui,
oui,
d'ailleurs,
sûr,
hein, c'est
de
l'anglais,
bien
mais
bien
enfin, c'est surtout l'Amérique qui nous envoie son vocabulaire. Et ça, c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est venu avec, avec l'aide des Américains, avec le plan Marshall.
Oui,
avec le plan Marshall, on a hérité de ça. Avec les blue jeans, qui d'ailleurs viennent de la toile de Nîmes.
Mais
bon, on a... Voilà. Mais donc, moi, en tant que correctrice... je suis une espèce de, comment on va dire, de douanier de la langue. C'est-à-dire, j'empêche autant que possible les mots étrangers de rentrer dans la langue française classique, qui est celle qui est dans mes dictionnaires. En même temps, ça fait partie de l'évolution de la langue que certains mots entrent. D'ailleurs, les trois quarts des mots anglais sont issus du français.
Oui, c'est vrai.
C'est Guillaume le Conquérant qui est allé apporter la langue française en Angleterre. En fait, c'était plutôt un dialecte normand, mais enfin, il est très proche du français qu'on parle aujourd'hui quand même. Et donc, finalement, ils ont été complètement envahis, ces pauvres Anglais, par notre langue française. Et aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est le retour, comme on dit, du berger à la bergère, la réponse du berger
réponse
à la bergère.
Hein, effectivement. Voilà. Est-ce que vous avez peur que... j'entends beaucoup ça, que cette langue française devienne une langue morte dans les 10-15 ans qui viennent. 10-15 ans, c'est très court et en même temps, ça va très vite.
C'est court, oui. Moi, je n'ai pas peur de ça du tout. J'ai l'impression que cette langue est au contraire très vivante, que beaucoup de gens s'y intéressent, et y compris les jeunes. Parfois, on critique leur façon d'utiliser la langue, qui est... Mais toutes les générations ont critiqué la façon d'utiliser la langue des générations suivantes. Le vocabulaire, les jeunes aiment bien avoir un vocabulaire différent de celui de leurs parents. C'est une façon de se différencier, de se sentir grand, et puis aussi de discuter entre eux sans qu'on les comprenne trop, ce qui est aussi un intérêt.
Un code.
Voilà, d'avoir des codes entre eux. Si vous voulez, c'est aussi le goût de la langue, ça, d'avoir envie de créer des mots, de les mettre à l'envers. L'important pour moi, c'est que les jeunes gens qui ont cette façon de parler, que parfois nous, adultes, on comprend quasiment pas, en fait. Hein. L'important, c'est qu'ils soient bilingues, quand même. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça. OK, parle comme ça dans la cour de récréation, mais quand tu es en classe, quand tu écris une dissertation ou quand tu me parles à moi, tu me parles en français. Voilà. Et autrement, que les jeunes soient bilingues, langage de cours de récré, langage de classe, pourquoi pas, après tout.
D'accord. La dernière histoire au bac, là, qu'on a entendue, où le mot ludique n'était pas compréhensible, soi-disant, par les élèves de terminale,
ouais.
Ça ne vous pose pas problème?
Est-ce que je vais vous avouer que moi, en terminale, je ne suis pas sûre que je connaissais bien le sens du mot ludique.
Suivante.
J'en suis pas sûre, franchement.
Ouais.
C'est un mot qui me semble avoir appris, peut-être dans ma vingtaine. Enfin,
d'accord.
Et pourtant, j'étais quelqu'un qui lisait, mais
ouais.
Peut-être qu'il ne lisait pas des histoires théoriques. Moi, je lisais des romans. Il n'y a pas tellement ludique dans les romans. Je ne sais pas. Moi, j'avais peut-être plus un vocabulaire de, des histoires classiques, des polars, de tout ça. Ludique.
Donc confiante.
Confiante,
c'est bien.
Voilà.
On va revenir au livre maintenant. Ceux qui n'écoutent pas RTL, qu'est-ce qu'il y a dans le livre?
Alors dans le livre, donc l'émission de RTL s'appelle Un bonbon sur la langue. Et ça s'appelle comme ça parce que pour moi, ce que je raconte sur RTL, ce sont des friandises de langue française que je concocte, là, comme des petites sucreries sur les délices, ce qui pour moi, en tout cas, sont les délices de la langue française. Et j'essaye de faire partager ce goût que j'ai, des bizarreries, des erreurs, soit des erreurs qu'on commet tous, soit des erreurs qui sont entrées dans nos dictionnaires. J'adore ça. Pourquoi on dit des chevaux ? À cause d'une erreur des moines copistes du Moyen-Âge, hein, qui se sont trompés dans la façon qui écrivaient US avec une abréviation qui ressemblait à un X et qui ensuite a été prise pour un X par d'autres. Voilà. Donc il y a plein de choses de notre langue qui sont issues d'erreurs qui un jour sont entrées dans nos dictionnaires parce que tout le monde s'est mis à la faire. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on parle de fromage quand les Italiens parlent de formaggio? Ça vient en fait d'une erreur des Français. Parce qu'on appelait, on disait le formage, parce que cette pâte est faite dans une forme. Et puis, bah, on appelle ça une métathèse quand les gens se trompent entre deux consonnes. On disait souvent fromage, et puis c'est fromage qui est entré dans nos dictionnaires. Et voilà comment nous on dit fromage, et les Italiens disent formaggio. Moi, c'est le genre de choses que j'adore découvrir, parce que bien souvent je les découvre avant de les raconter. Et je présente ça, voilà, sous forme de bonbons. Et donc, dans ce livre, vous trouvez chaque petite histoire qui va être sur une faute, une étymologie ou autre chose. Bah, ça fait 2-3 pages, quoi, et c'est l'équivalent de 3 minutes. Et ça peut se lire en commençant par le milieu, si on le souhaite.
Oui, comme on voilà. veut, effectivement, c'est ça. Moi, j'aime bien l'idée de bonbons. Parce mm-hmm.
C'est une boîte de bonbons.
C'est un joli titre, voilà. Effectivement, c'est très savoureux. Pourquoi le mot accueil ne s'écrit pas accueil, A2C? Et pourtant, qu'est-ce qu'on le voit souvent? A2C, E-U-I-L, quelle horreur.
Et oui, absolument, ça c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, pourquoi accueil s'écrit accueil? On est d'accord. Ça ne s'écrit pas. Écureuil s'écrit comme ça se prononce, on va dire, mais accueil s'écrit accueil. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une décision qu'on a prise. Je trouve ça complètement fou. Là, je ne sais pas qui l'a prise, cette décision. Mais parce que 2C, si on avait mis le E juste derrière les 2C, comme ça devrait se faire pour qu'on prononce, pour qu'on lise accueil, mais un C à côté d'un E, ça se lit se. Donc, ça ferait accueil. Alors, on s'est dit, oh, bah tiens, comment faire? Eh ben, on va inverser le U et le E, puisque un C à côté d'un U, ben, ça fait que. Allez, hop, on fait ça. Donc, je trouve ça très rigolo, moi, ces décisions bizarres, mais qui, en tout cas, ne simplifient pas l'apprentissage de l'orthographe pour nos enfants. Hein. Il faut le reconnaître.
Oui, ça, c'est clair. C'est déjà pas simple. On aimerait être petit.
Et pour les étrangers, ils ont beaucoup de mérite.
Oui, ça, c'est vrai. Est-ce que c'est une langue difficile, le français? Plus difficile que les autres langues, justement?
Alors, je pense que pour maîtriser parfaitement n'importe quelle langue, ça doit être, je vous dis ça, c'est de, comment dire, je l'imagine parce que je ne connais pas toutes les langues, mais je connais assez bien l'anglais quand même. Et donc, maîtriser parfaitement, très très bien une langue, je pense que c'est aussi compliqué, quelle que soit la langue. En revanche, pour se débrouiller, le français c'est compliqué, beaucoup plus que l'anglais, l'espagnol ou sans doute l'italien. Mais, et en plus, ça résulte d'une décision quand même qui a été prise en France hein, au moment de la création de l'Académie française. En tout cas, en termes d'orthographe, avant la création de l'Académie. Enfin, l'Académie a été créée pour donner aux Français un dictionnaire, une grammaire, voilà, pour que tout le monde écrive de la même façon et qu'on se comprenne un petit peu du nord au sud. Avant ça, chacun, tous les gens qui savaient écrire, écrivaient comme ils le souhaitaient, puisqu'il n'y avait pas de dictionnaire. À partir de la création de l'Académie, donc, il y a des règles, et puis il faut se mettre d'accord. Et donc, des grammairiens se mettent d'accord, et puis ils se disputent un peu sur est-ce qu'on va choisir une orthographe le plus proche possible de la façon de prononcer, ou est-ce qu'on va choisir une orthographe le plus proche possible de l'étymologie latine, en l'occurrence. Et en France, ce sont les étymologistes qui ont gagné. En Espagne, en Italie, ce sont les partisans de la phonétique qui ont gagné. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus facile d'écrire en espagnol. Très difficile de faire des fautes dans une dictée en espagnol. En dehors des accents, les accents toniques qui peuvent être très compliqués. Et puis les conjugaisons sont compliquées. Hein. Mais je veux dire, si on vous dicte un texte, ils écrivent football, F-U-T-B-O-L, les Espagnols. Ils ne se mettent pas martel en tête. Donc en France, c'est quand même une décision qui a été prise. Et alors j'ai oublié le nom du grammairien qui a dit ça, mais il a écrit qu'il fallait favoriser la version étymologique de l'orthographe parce que ça permettrait de différencier les hommes instruits des ignorants et des simples femmes.
Voilà. Il fallait rajouter le dernier qui me semble important.
Parce que les femmes n'apprenaient pas le latin, en fait. Hein. Les femmes savaient éventuellement écrire, mais on ne leur apprenait pas le latin. Voilà.
Mais j'aime bien quand il y a des histoires comme ça, effectivement, que ce n'est pas toujours le cas d'erreur ou quoi que ce soit. Parfois, c'était pour gagner de la place. Le fameux accent circonflexe, c'était pour gagner de la place.
Absolument.
Sur les ouais, parchemins. Ouais, donc, plutôt que de mettre un S, on n'avait pas la place, on mettait un accent. C'est des merveilleuses histoires, ça.
Voilà, tout à fait.
Ça, c'est magique. Ouais. En lisant votre livre, je me disais à chaque fois, mince, ça me fait penser, et j'adore tout ça, à Claude Duneton, La puce à l'oreille, qui, je ne sais pas si vous connaissez aussi ce livre, qui est très, très, très savoureux.
Oui.
C'est un peu dans la même veine, vous sentez dans la même veine aussi?
Absolument. Ouais. Moi, j'avais lu Claude Duneton, je ne sais pas de quand ça date, La puce à l'oreille, on va dire 1975, 77, 78, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'avais vu passer ce livre, j'étais bien jeune à ce moment-là, oui. Mais ça m'avait, je l'avais quand même, je ne sais pas si je l'ai lu en entier, mais en tout cas, je l'avais feuilleté, ça m'avait bien intéressé, on en avait parlé avec mes parents, je me souviens. Voilà, et c'est quand même quelqu'un qui, Claude Duneton, qui aime partager le plaisir de la langue. Oui, et en fait, moi, c'est ça que j'aime partager, et c'est en ça que je me sens proche de cette écriture-là.
Il y a un petit côté historienne, c'est-à-dire chercheur. Vous allez chercher, il faut le trouver tout ça.
Oui, je vais le chercher. Bah, alors, il faut avoir les bons documents, bien sûr. Oui, hein. Et donc doute, moi, j'utilise énormément. Oui. Je le dis toujours dans mes textes d'ailleurs où je vais chercher mes informations parce que je trouve que c'est d'abord il faut rendre à César ce qui est à lui. Et puis parce que c'est toujours, enfin, ça me semble juste honnête et intéressant éventuellement pour que les gens puissent aller, bah, eux aussi faire des recherches. Je trouve énormément de choses sur l'étymologie dans le dictionnaire historique de la langue française qui est aux éditions Le Robert. Et qui est l'œuvre d'Alain Rey. Alain Rey et son équipe, bien sûr, il n'a pas fait ça tout seul. Et une nouvelle version vient de sortir, là. D'ailleurs, il y a, je crois, un mois, la dernière version à laquelle aura collaboré Alain Rey. Alors, c'est un gros bouquin, hein, c'est pas donné non plus, mais c'est une belle, voilà, c'est une belle ressource que moi, j'utilise très, très souvent. J'ai même téléchargé l'application pour l'avoir dans mon smartphone.
Je ne savais pas que et ça existait.
Voilà, mais c'est l'application la plus chère que j'ai. Hein. Je crois que je l'ai payée 50 euros ou quelque chose comme ça. Bon, moi, je m'en sers tellement que j'ai toujours envie de pouvoir aller chercher, alors que ce dictionnaire est très, très gros. Ah, eh bien non, figurez-vous que non, c'est moi.
Votre livre est moins cher.
Voilà, mon livre est beaucoup moins cher. Donc voilà, ça, c'est une base vraiment importante. Et après, moi, je suis dans Larousse tout le temps. Larousse.fr aussi, qui n'a pas, bizarrement, les mêmes contenus que le Larousse papier et qui a notamment un onglet difficulté. Quand vous regardez, vous cherchez un mot, il n'y en a pas pour tous les mots, bien sûr, parce que parfois, il n'y a pas de difficulté particulière, mais quand vous cherchez n'importe quel mot, j'en sais rien, chrysanthème, vous cherchez difficulté, et là, vous allez avoir chrysanthème s'écrit ainsi, avec deux H, parce que nanani nanana. Donc, il y a souvent des explications intéressantes, ou au moins des règles, donc j'utilise beaucoup ça. Et puis, les livres d'Henriette Walter, qui est une linguiste elle a plus de 90 ans, mais elle est encore parmi nous. Et qui a beaucoup de fantaisie. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le français dans tous les sens », dont je me suis parfois inspirée. Notamment, là, je la cite aussi dans l'histoire des chevaux. Mmh. C'est elle qui m'a appris cette histoire de chevaux, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, je cherche un peu partout, je fouille et puis j'aime bien trouver des trésors et les faire partager.
Parfois, il y a des vieux mots de français qui nous reviennent, alors qu'ils avaient disparu. Je pense à autrice, qui est très, très à la mode.
Oui, c'est
ça
vrai.
Ça arrive souvent, ça, que des vieux mots ressortent.
Ah oui, ça arrive souvent, puis qu'on les prenne pour des nouveaux, surtout.
Ah oui, hein,
comme autrice, nos enfants, d'ailleurs, qui nous disent souvent, qui nous sortent un mot, ils ont l'impression qu'ils viennent de l'inventer. Et puis, en fait, le verlan, par exemple.
Oui, absolument.
Les jeunes croient que le verlan, c'est eux qui l'ont inventé, alors qu'il existait, mais depuis. Alors, quand nous, on était jeunes, mais encore avant notre naissance. Voilà. Donc, ça arrive effectivement très souvent.
D'ailleurs, ça me rappelle Mourouzi parlant en verlan à Mitterrand, qui lui dit : Vous savez, c'est pas nouveau.
Ouais,
c'était
exactement.
Il y a quelques temps. Donc, déjà, effectivement, Mitterrand, ancien président, évidemment. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vos émissions, de vos chroniques, de ce livre ? Qu'est-ce que vous aimeriez ?
Eh bien, le plaisir. En fait, le plaisir de la langue, c'est-à-dire que moi, rien ne me fait plus plaisir, à moi, que de voir quelqu'un soit m'écrire, soit venir me voir sur un salon en me disant « Moi, j'étais un cancre à l'école et tout, j'étais... » Il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs très douloureux vis-à-vis de la langue française, des dictées, tout ça, l'école. Et quand ils viennent me dire « Mais vous m'avez redonné envie », je me rends compte que je peux faire. Alors, effectivement, j'organise de temps en temps des dictées, mais des dictées où l'on a le droit de copier sur son voisin, c'est toujours mon truc. Voilà.
C'est les meilleurs.
Donc, je fais d'abord la dictée normale, hein, quand même, pour qu'on puisse se confronter à ses propres difficultés. Et après, je laisse aux gens un quart d'heure pour, allez-y, copier sur votre voisin, mais attention, que ce soit le meilleur, enfin, débrouiller pour copier sur le bon voisin. Et puis ensuite, on voit la correction, mais on ne ramasse pas les copies. Donc, pour moi, c'est important aussi de montrer aux gens que la langue leur appartient, que le pire serait qu'on n'ose pas s'exprimer, que ce soit à l'oral ou par écrit, de peur de commettre des erreurs. Pour moi, rien ne justifie qu'on ne s'exprime pas, parce que la langue, elle nous appartient à tous, quoi, quelle que soit la maîtrise qu'on a du dictionnaire, finalement. Voilà.
Vous avez une entrée préférée dans toutes les définitions ? Enfin, je ne sais pas si on peut dire définition.
Ce n'est pas des définitions, non, c'est des... Ben, je crois que cette histoire de chevaux, moi, ça m'a énormément plu. C'est pour ça que je voulais raconter, parce que je l'ai découverte voilà, il n'y a pas très longtemps. Et je me disais quand même, c'est cette règle. On va se moquer ou on va dire aux étrangers, non, on ne dit pas des chevaux, attention, on dit des chevaux. Mais en fait, tout ça vient d'une erreur au départ, quoi, d'une erreur des moines copistes. Je trouve ça magnifique.
Je trouve ça magnifique, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous avez dû faire une sélection difficile en vous disant, allez, celui-là, on ne va pas le mettre, on va le faire dans le top
14. Toujours, alors ça, c'est une bagarre avec mon éditeur, il est là-bas derrière. Là. On a une bonne petite lutte chaque année là-dessus. Et moi, je tiens presque à tous, quoi. Donc, lui, il me dit qu'il faut en enlever et moi, je ne veux pas. Donc,
donc ça fait
donc c'est le résultat 2, 3, de la lutte, là, voilà.
C'est le combienième, d'ailleurs? C'est le premier? Non, ce n'est pas le premier.
Non, ce n'est pas le premier, c'est le quatrième.
Quatrième, voilà. Donc il y en a d'autres pour les tomes 5.
Voilà, il y en a d'autres.
C'est quoi, c'est tous les ans? Vous les sortez
tous les ans, ouais.
Ah ben c'est merveilleux, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut changer dans une langue pour qu'elle soit encore plus belle? Est-ce qu'il y a des changements à faire?
Ben, on peut s'en servir. En fait, comment dire, les créations, les néologismes, bien souvent... moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots. C'est-à-dire, je ne suis pas toujours dans le respect du dictionnaire. Par exemple, j'ai fait une chronique ce matin sur le vocabulaire du football, puisque c'est le lancement de
la
Coupe du Monde. Voilà. Et un vocabulaire qui peut être très rigolo, d'ailleurs. Et dedans, j'ai mis métaphore maisonnesque. Maisonnesque, ça n'existe pas. J'ai mis ça entre guillemets, bien sûr, pour montrer que je sais que ça n'existe pas. Mais j'aime beaucoup créer des mots comme ça. Et peut-être que si tout le monde se met à dire maisonnesque, parce que je parlais de la lucarne dans le but. La lucarne, c'est le haut du but. Et puis, ce que j'ai appris dans un livre sur le sujet, c'était qu'en bas du but, quand on tire en bas, ça s'appelle le soupirail. Ce que moi, je ne savais pas. Et j'ai dit, ah, bah, y a une certaine logique à maintenir cette espèce de métaphore maisonnesque, comme si le but était une maison. C'est pour dire qu'il ne faut pas s'interdire non plus de créer des mots, y compris s'ils ne sont pas dans le dictionnaire, quitte à les mettre entre guillemets pour montrer, oui, je sais bien que ça n'est pas dans le dictionnaire, mais j'ai quand même le droit... Parce que c'est ma liberté d'en inventer, puis je ne suis pas en train de faire une dissertation pour mon baccalauréat. Quoi. Là où c'est un peu plus dangereux, éventuellement.
À une époque, il y avait par exemple Renaud qui changeait beaucoup les mots, qui s'amusait beaucoup avec la langue française. C'est drôle parce que, bon, encore une fois, moi j'ai une fille de 13 ans et demi qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette chanson ? Il ne parle même pas français. »
Ah oui.
Donc c'est drôle, effectivement.
Non, mais c'est vrai que les poètes ont toujours inventé des mots. Quoi. Et puis parfois, ils ont un beau succès et puis on les reprend.
À votre avis, génération perdue pour finir, les nouvelles générations, SMS, TikTok, tout ça, ou non, il y a encore du bon à tirer?
Moi, vous allez trouver que je suis bêtement toujours positive, mais en fait, les SMS, c'est encore une autre langue. Enfin, y compris moi, quand j'écris un SMS, qu'est-ce que j'aime bien utiliser?
C'est souvent des hiéroglyphes.
C'est, par exemple, c'est. C'est moi qui, je ne sais pas quoi. Bah, très souvent, j'ai vu que les jeunes faisaient ça, mais je me suis dit, mais bien sûr, ça va beaucoup plus vite d'écrire C, juste la lettre C. Qu'est-ce qui est interdit de le faire? Si on sait, c'est un peu comme tout à l'heure quand je parlais d'être bilingue. On peut très bien être bilingue français SMS. Du moment qu'on sait naviguer entre les deux, c'est toujours une richesse de plus. C'est comme une langue, finalement, de plus, un code. On apprenait, quand j'étais jeune, on apprenait la sténo. J'ai jamais appris, mais j'aurais bien aimé apprendre la sténo. Ouais, c'est un autre code encore qui maintenant ne s'utilise plus. Exact. Pourquoi pas?
Effectivement. Des questions peut-être? Monsieur.
L'année dernière, j'étais au Louvre, je voyais dans un cartouche, on en parlait tout à l'heure. On porte notre regard sur. Et moi, je suis toujours très choqué par ce qu'on entend. Quand on dit on porte notre regard,
oui, je trouve qu'on devrait dire « on porte son regard ». Alors, « on », c'est vrai qu'il y a cette évolution de « on » qui remplace de plus en plus « nous hein, » dans l'usage. Mais dans une même phrase, effectivement, il n'est pas considéré comme très élégant de dire « on » puis « nous ». Alors, la question qu'on me pose souvent sur « on », c'est l'accord. Moi, en tout cas, en langue, à l'oral, j'utilise beaucoup « on ». On est allé au cinéma. Voilà. Et si j'y suis allée avec une amie, je vais écrire « on est allé » et « es » au cinéma. Puisque ce « on » veut dire « nous », justement. Voilà. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. En revanche, quand le « on » garde son sens général, généralisant, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ou, voilà. Quand on veut ceci, on doit faire cela. Dans ce cas-là, on continue d'accorder, bien sûr, à la troisième personne du singulier.
Dommage qu'on n'ait pas fait une dictée, quand même. Monsieur.
Ça sera pour une autre année, peut-être.
Voilà.
Oui.
Je voudrais, avant de vous poser ma question, faire une précision. Je parle 7 langues et je publie dans 4 langues. Donc vous comprenez que ce sujet des comparaisons entre les langues est un sujet permanent et passionnant.
Oui, c'est vrai.
En particulier, on pourrait parler d'un tas de choses que vous avez mentionnées, mais sans aller assez loin. l'histoire des lettres a changé.
Les métathèses.
Crocodile.
Oui.
Crocodile.
Oui, bien sûr.
Corbata. Cravate.
Oui.
Et dans des tas de langues, il y a ces changements. Moi, j'ai toujours dit que les Espagnols sont dyslexiques. Parce qu'ils ont ce genre de choses à répétition. Mais il y a un sujet qui me tient à cœur et avec lequel j'ai des débats permanents avec mes amis français de naissance. Parce que vous avez compris que vous, comme Obélix, vous êtes
je suis tombé dedans. Oui.
À la naissance, alors que moi, j'ai choisi la marmite.
Oui, oui. Et vous avez drôlement bien choisi parce que je trouve que vous avez une maîtrise incroyable. Hein.
Merci beaucoup. Ouais. Il y a le problème des accents. Cette aberration totale
ouais.
du français, les « et » qui d'ailleurs ne s'entendent pas dans la moitié du sud de la France.
Pas de la même façon, oui.
Et que donc n'existe pratiquement plus. Parce que quand vous écrivez à la Sécurité sociale, on exige que vous ne mettez pas des accents.
Ouais.
Et petit à petit, c'est évident que les accents disparaîtront. Ah, il y a des Maurice Druon qui s'accrochent encore post-mortem. Que pensez-vous de l'avenir des accents?
Bonne question.
Alors, c'est un peu compliqué pour moi.
On pourra acheter des claviers américains comme ça, c'est bien.
C'est ça. Je pense qu'on a quand même... On a inséré les accents, on a inventé les accents. Hein, ils n'étaient pas à l'origine en français, bien sûr. Ils sont arrivés au XVIIe siècle, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion pour l'imprimeur du dictionnaire de l'Académie française de commettre quelques erreurs, puisqu'il n'avait pas l'habitude et que surtout, il n'avait pas commandé suffisamment, notamment de lettres E avec l'accent grave. C'est pour ça que qu'on a toujours écrit « événement » avec deux accents aigus, alors qu'on prononce « événement ». Donc, depuis 1990, on peut écrire les deux. Hein. Mais donc, les accents sont arrivés à peu près au XVIIe siècle en français. Et ils ont été créés, pourquoi ? Pour justement essayer quand même de rapprocher l'écriture de la langue de la façon de la prononcer. Donc, je pense qu'ils ont quand même une utilité. Mais peut-être qu'ils vont changer ou qu'il y en a certains qui vont disparaître. Ça, c'est possible. L'intérêt d'avoir un accent circonflexe, l'intérêt en termes de sonorité, hein, d'avoir un accent circonflexe par rapport à avoir un accent grave, bon, en dehors du fait qu'on a décidé que l'accent circonflexe représentait la disparition du S, comme dans forêt, hein, forestier ou hôpital, hospitalier. Ouais. Voilà. Moi, je pense que les accents ont encore un bel avenir en France. Voilà.
Oui, en France. Bah oui, mais on est chez nous.
Je veux préciser parce que tous mes amis français des quatre coins du monde m'envoient des messages sans aucun accent.
Mais parce qu'ils n'ont pas les claviers
donc,
avec les accents.
C'est ce que je disais du clavier, voilà, c'est ça.
Il faudrait changer la totalité du monde pour qu'ils soient tous alignés sur nos accents.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Bon.
C'est
il avait,
ça.
Il y avait une autre question.
Imposons le clavier français partout dans le monde.
Voilà. Ça, c'est dans ce sens-là, oui, ouais. Madame.
Je voulais savoir ce que je pensais, c'était votre premier livre à tort. Je voulais savoir quelle était la structure du livre et quelle était la différence avec les trois premiers, si vous voulez dire rapidement.
Il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Hein. C'est juste que les histoires sont différentes. Mais c'est des recueils des chroniques de l'année, en fait. Voilà. Voilà, exactement. Donc, il n'y a pas de... Voilà, exactement. C'est ça.
Génial. D'autres questions ? Monsieur ?
Alors, ça dépend des endroits.
Je leur dis pour la radio, est-ce qu'on met un accent sur la majuscule ?
Ouais. Alors, si c'est pour un texte qui va être publié dans Le Monde, vous n'en mettez pas. La plupart des éditeurs vont plutôt
pas les moyens,
le mettre.
Parce que...
Si, ils ont les moyens. Je vais expliquer. En fait, alors dans Le Monde, vous allez la mettre uniquement si le texte est tout en majuscule. C'est le cas dans les titres, par exemple. Quand vous avez un titre tout en majuscule, on met les accents. On met tous les accents. Ça aide parce que c'est très important pour la compréhension, justement. Tiens, regardez. Si on retire les accents, il y a une petite une anecdote comme ça qu'on raconte. Sur une jeune femme avait passé une annonce à l'époque où les annonces, le courrier du cœur et les annonces du cœur étaient dans les journaux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, c'est mythique et tout ça. Mais donc, une jeune fille avait publié JF cherche homme, même âge, elle voulait dire. Mais beaucoup de gens ont préféré comprendre même âgé. Et donc, elle a eu plein de courriers de vieux messieurs.
Voilà. C'est important, les accents.
Voilà. Inconvénient de ne pas mettre les accents. Et donc, en fait, l'écriture, normalement, en français, se fait avec les accents. On nous a parfois appris à l'école qu'on ne mettait pas les accents sur les lettres majuscules. Pourquoi ? Parce qu'en écriture cursive, là, les jolis A que vous allez dessiner à la main avec la plume, Vous pouvez pas mettre un accent, en fait. C'est pas fait pour. En revanche, les caractères d'imprimerie peuvent tout à fait supporter les accents. Sauf qu'à l'époque de l'imprimerie au plomb, un caractère avec un accent était plus haut qu'un caractère sans accent. Ça, c'est pas possible. Donc, on réduisait la taille du caractère, puisque chaque caractère était indépendant. Il fallait réduire la taille du caractère pour que l'accent puisse être compris dans la même hauteur que le caractère voisin. C'était très laid. Vous vous retrouviez avec un A plus petit que le B qui était à côté, tout simplement parce que ce A avait un accent. C'est pour ça que les journaux ont pris l'habitude de ne pas accentuer les caractères majuscules, sauf dans les textes tout en majuscules, parce que sinon, on risquait vraiment des déficits de compréhension. Voilà. Mais aujourd'hui qu'on est en électronique, ça ne se pose plus du tout, ce problème. Sauf qu'il y a cette vieille tradition dans la presse de ne pas accentuer les majuscules. Enfin, on peut régler son Word, Madame, ou autre sur accentuer les majuscules. Il y a des réglages qu'on peut faire, mais c'est vrai que ce n'est pas spontanément là.
Dernière question, madame. Où est-ce que vous faites des dictées?
Alors, dans quelle école? Je crois que la prochaine... Dans aucune école, en général. Ce n'est pas dans des écoles. C'est souvent dans des événements comme ça. Et là, je ne pense pas... Ah si, j'en ai une qui est prévue à Saint-Quentin. Est-ce que c'est l'Aube ? Saint-Quentin, dans le Nord, là. Dans l'Aisne, voilà. L'Aisne. Dans l'Aisne.
Ça peut pas être bon partout.
Début décembre, dans 15 jours, je crois. Bon. Il y a un salon du livre de Noël. Salon du livre de Noël de Saint-Quentin. Et je vais faire une dictée là-bas.
Joyeux Noël, dictée.
Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà.
Muriel Gilbert, vous êtes formidable. Merci beaucoup.
Merci pour votre accueil.
Correctrice incorrigible. Voilà la fin de ce numéro d'Expresso. Retrouvez toutes nos interviews sur timelinepodcast.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel invité.